Un nouveau rendez-vous de Wagon Livre ce soir avec une invitée exceptionnelle, un grand nom de la littérature contemporaine. Et elle va nous accompagner tout au long de la soirée avec son nouveau livre. On va en parler d'ici quelques minutes. Noël Châtelet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Noël Châtelet, je dois vous présenter comme femme de lettres. Ancienne universitaire.
Universitaire, écrivain, femme de lettres peut-être, oui, puisque j'ai dirigé l'Institut français de Florence pendant 3 ans, il y a de ça, oui, il y a une vingtaine d'années. Et puis très engagée dans multiples associations pour défendre l'écriture, la lecture, les écrivains, puisque je suis aussi vice-présidente de la Société des gens de lettres, etc. Voilà, je suis un écrivain citoyen, disons.
Alors je suis très heureux de vous accueillir à bord donc, de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Alors vous vous êtes fait connaître par un premier ouvrage qui était le fruit d'une thèse de l'université, qui a paru au Seuil en 76 et qui s'intitulait « Le corps à corps culinaire »,
oui,
dans lequel vos romans et vos travaux s'intéressent beaucoup au corps,
oui,
à son vieillissement, à cette crainte peut-être.
Ces métamorphoses, je
dirais. Ces métamorphoses, exactement. Oui. Alors bien sûr, il y a la femme Coquelicot, je crois, entre autres, cette Marthe qui redécouvre l'amour, elle a
70 ans
avec son
ans,
Félix. Enfin, c'est un très beau petit roman.
Amour tardive.
Qu'on peut redécouvrir en livre de poche. Vous vouliez en dire un petit mot sur la femme Coquelicot ?
Oui, c'est-à-dire que ce livre, parmi d'autres, et vous avez eu raison de citer le corps à corps culinaire, parce qu'au fond, c'est le point de départ d'un long voyage autour du corps et de ses métamorphoses. Et la femme Coquelicot est une réflexion à travers, bien sûr, un procédé romanesque sur le vieillir, et d'autant plus nécessaire dans cette société où nous sommes, qui d'autant plus nécessaire dans cette société où nous sommes, qui, comme vous le savez, nous pousserait plutôt vers des diktats liés à la jeunesse, à la beauté, etc. Donc je mène un petit combat militant à travers la femme Coquelicot, mais aussi sur le livre qui précédait, qui s'appelle La Dame en bleu, pour donner de la vieillesse une autre image. Et de se dire, mais au fond, si vieillir, c'était aussi tout à coup découvrir quelque chose de soi qu'on ne connaît pas encore et qui va nous donner ce sentiment suprême que nous n'avions pas connu encore parce qu'on est pris trop dans le consensus, le goût de la liberté retrouvée. Et la liberté retrouvée pour Marthe, c'est aussi la découverte tardive de l'amour. Elle qui a été femme, non, je me trompe,
enfin,
elle qui a été mère, épouse, mais qui se découvre tout à coup femme, puisqu'elle va découvrir l'amour avec un monsieur qui a 10 ans de plus qu'elle, qui a 80 ans. Et c'est une façon d'éclairer quelque chose dont on parle assez peu, qui reste tabou finalement, que sont les amours tardives, qui sont beaucoup plus répandues qu'on ne croit d'ailleurs. Et je le sais parce que ce texte a été mis en scène au théâtre, il a d'ailleurs été mis en scène à la télévision également, mais au théâtre, je le fais tourner parfois dans les maisons de retraite ou dans des services de gérontologie à l'hôpital, etc. Je sais qu'à chaque fois que le spectacle a été donné, le lendemain, des amours se livraient, voilà, arrivaient toujours, et des mariages ont accompagné la représentation de ce spectacle, ouvrant tout à coup les yeux sur cette réalité et cette évidence que on peut être amoureux sur le tard, et on peut aimer, être aimé, et aimer érotiquement. Hein, voilà. Donc, à travers, au fond, tous les tous les thèmes que j'ai abordés, qui sont liés à l'identité sexuelle, qui sont liés, puisque j'ai écrit aussi un livre sur l'hermaphrodisme, qui sont liés au rapport du corps avec l'alimentation, qui sont liés à la jeunesse, à la beauté, à la peur de vieillir et la peur de mourir aussi. Tous ces livres-là, au fond, non seulement ils s'intéressent à ce qu'est ce corps qui est porteur d'âme un petit peu, hein, et dans lequel nous sommes à la fois comme dans une prison dorée, parfois, mais pas toujours, mais aussi d'aborder des sujets qui s'abordent peu, finalement, parce que à chaque fois, à chaque livre, je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu dérangeant qui, moi, m'intéresse parce que je crois que c'est le rôle de la littérature que d'aller mettre de la lumière là où on ne va pas forcément. Dans les amours tardives, on y va peu. Dans les amours enfantines, l'éros enfantin, on y va peu. Dans la mort, on y va peu. C'est la grande peur, c'est la grande
peur. On cache un petit peu, oui, effectivement, ces réalités qui effraient tout le monde.
Qui effraient tout le monde.
Et vous êtes...
Eh bien, moi, tout ce qui effraie m'intéresse.
Vous êtes une courageuse.
Je ne sais pas si je suis courageuse. Je suis
audacieuse.
Voilà. Je ne dirais pas courageuse parce que tout ça me fait un peu peur. C'est-à-dire que j'y vais jamais sans un peu de peur au ventre, hein, en me disant, mon Dieu, où est-ce que je vais encore aller tremper ma plume? Mais oui, ça m'intéresse d'aller au-delà des apparences, au-delà des convenances, et de m'attarder sur des questions qui, justement parce qu'elles nous dérangent, me paraissent extraordinairement importantes.
Si vous le voulez bien, Noël Châtelaine, nous reprendrons cette discussion d'ici quelques minutes, juste après une chanson interprétée par Julien Clerc. Et comme nous aussi dans Wagon Livre, chaque mercredi soir à partir de 21h sur Radion, nous voulons être utiles. Voici donc « Utile » par Julien Clerc, sur des paroles d'Étienne Rodagil.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée?
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radionne, au cœur de la Bourgogne.
Noël Châtelet, je rappelle un peu aussi quelques œuvres. Alors, vous avez parlé du corps, la peur de mourir. Il y a eu, en 2004, un récit paru au Seuil, récit qui a pour titre « La dernière leçon », où vous racontez aux lectrices et lecteurs le choix de votre mère, qui est une dame de 92 ans dans le récit, et qui a été sage-femme, en plus donc porteuse de la vie, la maternité, et puis c'est votre mère, et qui a choisi, parce qu'elle se sent fatiguée, et elle ne veut pas imposer à ses enfants, qu'est-ce qu'elle ne veut pas imposer, son poids, sa vie,
l'extrême vieillesse, qu'elle
sent
venir,
donc
de se donner
la mort.
Mais non seulement ça, mais elle choisit aussi de préparer ses enfants à cette mort annoncée.
Mais il faut dire que votre mère et votre père se sont investis dans un combat pour... ont milité tout au long de leur vie pour le droit,
à une mort choisie. Et ils ont cofondé ensemble, et avec d'autres bien sûr, une association qui s'appelle l'association Droit pour mourir dans la dignité, à la DMD, à laquelle d'une certaine manière, je participe aujourd'hui, prenant un peu le relais de ma mère, depuis qu'elle est partie. Et ils nous parlaient, bien sûr, et surtout ma mère, de ce désir qu'ils avaient de s'arrêter quand ils le souhaiteraient, pour partir debout. Et nous étions d'accord, les quatre enfants, avec cette décision. Mais c'est vrai qu'entre l'accord de principe et puis l'arrivée d'une date qui tombe, comme je dis, sur nos coups comme un coup près, le gouffre est énorme. Et c'est au-dessus de ce gouffre que je vais me trouver au moment où ma mère, je dis parce que je ne parle pas dans ce livre de mes frères et sœurs qui ont eu chacun leur propre histoire. Il y a quatre mères, quatre enfants, donc quatre façons de l'avoir quitté. Je parle uniquement de ma façon à moi, et j'essaie de montrer comment, par un processus initiatique extraordinairement efficace et auquel je ne croyais pas, moi, au début, ma mère m'oblige à m'asseoir à l'école de sa mort, si je puis dire, devant un pupitre qui est l'apprentissage de sa mort et de la diffusion mère-fille, comment elle me fait accepter, non seulement accepter, mais comment elle dédramatise sa décision,
son geste.
Elle fait
accoucher
geste,
quelque chose, elle pratique un magnétique,
voilà,
justement.
Ouais, tout à fait, c'est une sage-femme. Elle fait accoucher, elle me met au monde à nouveau, elle met au monde une fille qui accepte la diffusion, qui accepte la séparation d'avec la mère, et elle procède avec un système qui tient du génie, c'est-à-dire qu'elle me fait accomplir chaque jour pendant les 3 mois du compte à rebours qui a précédé son geste, des gestes qui d'habitude, des choses, et des rituels qui d'habitude s'accomplissent après la mort. Et nous préparons ensemble sa mort. Voilà. Elle me prend la main, et comme elle m'a appris à tenir ma cuillère pour mes premières bouillies, puis à tenir mon crayon pour mes premières lettres d'alphabet, comme elle m'a appris à devenir une femme, puis une mère, elle était là à la naissance de mon fils, elle m'apprend cette dernière leçon qui me manquait, la leçon de la mort, de sa mort, choisie. Et au moment où elle part, je suis en paix, vraiment. Et il est vrai que depuis qu'elle est partie, et maintenant ça fait 8 ans, je n'ai jamais pleuré ma mère. Jamais. J'ai parfois de l'émotion en parlant d'elle, mais elle m'a téléphoné, je me souviens, quelques jours avant son geste, et elle m'a téléphoné d'ailleurs juste avant de l'accomplir, mais quelques jours avant son geste, elle m'a appelé en me disant « N'aie pas peur pour après. Tu ne souffriras pas. Parce que le deuil de moi, nous l'avons fait ensemble. » Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Et elle avait raison. Il avait été fait. Et je n'ai pas eu à le faire après. Et c'est un cadeau. je me rends compte à quel point c'est un cadeau. C'est au fond son dernier cadeau de mère. Même si ça paraît, dans un premier temps, assez violent. C'est violent, bien sûr. D'ailleurs, je ne mets pas de côté cette violence que ça représente au début. Mais il y a tout un travail à faire, au sens presque obstétrique du terme et psychanalytique du terme, sur la mort. Et je crois que ce travail, il réside surtout autour de l'échange. Et du dialogue. Et
il faut être bon élève pour accepter cette dernière leçon. Il faut le vouloir et avoir le désir aussi d'accepter, de perdre son parent, ce qui est dans la logique biologique, normalement.
Comme elle disait, dans l'ordre des choses. Mais vous voyez, j'ai eu toujours avec ma mère une relation presque que j'appelle gigogne dans le livre, hein, une relation mère-fille, d'un dialogue qui ne s'est jamais démenti. Et j'ai compris que si je lâchais sa main, ou si elle lâchait la mienne, à ce moment-là essentiel de sa vie, qui était son dernier acte de vie, eh bien, tous les dialogues mère-fille qu'on avait eus avant n'auraient pas de sens. Comme si celui-là devait sublimer, en quelque sorte, tous les autres, parachever, en réalité, tous ceux qui avaient précédé et qui m'avaient vu grandir et vieillir aussi. Donc, elle avait commencé, au fond, ce travail avec moi dès l'enfance. Et moi-même, attentive à ce que ça a représenté d'un processus inconscient aussi de familiarisation avec la mort, ce travail, je le fais avec mon propre fils et avec ma propre petite fille qui a 4 ans et demi et qui me parle beaucoup de la mort. Je la prépare avec, évidemment, toutes les roses qui vont avec, hein, et presque l'angélisme aussi, hein, qui va avec, pour une petite fille de 4 ans et demi, mais qui veut savoir ce que c'est que la mort. Et là, elle commence à comprendre qu'un jour, je ne serai plus là et que tout ce que je vais lui donner, à la fois de mon amour et aussi des objets dont je lui fais cadeau, par exemple, tout ça fait partie de la transmission et fait partie de ce qui rend la mort acceptable.
Retour aux côtés de notre invité ce soir devant les micros de Radion. Nous avons le plaisir de nous entretenir avec Noël Châtelet, universitaire et écrivain. Vous avez été très souvent récompensé. Il y a eu Histoire de bouche, prix Goncourt de la Nouvelle en 1987. Donc, vous l'avez mentionné, les romans La femme, Coquelicot, La dame en bleu, La petite au tournesol. Et puis, ce soir, nous parlons de votre dernier ouvrage paru chez Plon, où là encore, vous allez vers ce qui fait peur, vous allez vers les ténèbres, mais vous apportez une lumière, en tout cas un éclairage,
j'espère,
sur un énigmatique personnage, et qui est le marquis de Sade. Et donc, il s'agit de Entretien avec le marquis de Sade. Et alors, vous connaissez bien l'œuvre de Sade, parce que vous avez eu l'occasion de présenter les choix de textes philosophiques de Sade. Alors, on a du mal d'ailleurs à penser et à associer Sade à un philosophe.
Non, c'est tout à fait un philosophe. Et c'est d'ailleurs lui que je veux faire découvrir au lecteur. Oui. Alors, il faut préciser tout de suite que cet entretien est un ovni. Parce que d'abord, il est fictif. C'est le premier entretien d'une collection en réalité. Qui consiste à demander à un écrivain de s'entretenir avec un personnage du passé de telle sorte que le personnage réponde uniquement par ses textes, ce qui est le cas.
Il n'y a pas un mot... Vous avez pioché dans la correspondance ou dans des romans de ça.
Dans les romans, dans la correspondance, dans les textes philosophiques, dans les textes politiques, etc. Donc dans l'œuvre complète de Sade. Et il n'y a pas un mot de Sade qui ne soit de Sade. Mais moi, évidemment, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que Sade réponde à des questions que tout le monde se pose ou qu'on n'ose pas se poser.
Vous êtes dans quête de vérité avec Sade.
Oui, l'idée, c'est un travail pédagogique, c'est d'amener à mieux comprendre ce personnage qu'on n'a pas lu ou qu'on a mal lu ou qu'on a fui, et je comprends pourquoi on l'a fui. C'est-à-dire... si vous voulez, moi-même, je suis dérangée par la violence de cette œuvre et de la difficulté qu'il y a à l'approcher et à la lire. Mais elle m'intéresse. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Elle m'intéresse parce que elle a sans doute un sens caché que j'essaie de trouver. Justement, j'essaie d'amener le lecteur, non pas à réhabiliter Sade.
C'est pas une apologie.
C'est pas
de
une
Sade
apologie
non plus.
Du tout, non, parce que moi je suis une non-violente. Toutes les formes de violence me sont insupportables. Donc on pourrait dire que ce personnage est aux extrêmes de ce que je suis. Mais il m'intéresse parce que lui aussi, si je puis dire autrement. Il a l'audace d'aller au-delà de ses contemporains, qui sont des philosophes du XVIIIe siècle, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Voltaire, etc. Il est de cette famille-là.
Il lit d'Alembert, d'ailleurs, en prison. Oui. Il lit même Voltaire alors qu'il est embastillé.
Il lit Rousseau, etc. Ce sont ses contemporains. Sade appartient à la famille des philosophes du XVIIIe, de ceux qu'on appelle les Lumières. Mais qu'est-ce qu'il va faire, lui, de plus audacieux encore que le philosophe des Lumières? Lui aussi, il va vouloir savoir ce qu'est le cœur humain, l'âme humaine, comprendre comment...
Les pulsions,
comment l'homme est dans la société.
Le côté animal de l'homme.
Le côté animal de l'homme,
parfois.
Absolument. Ses instincts, etc. Tout le rapport entre l'instinct et l'institution, la civilisation et la nature, etc. Toutes ces questions qui se posent aux philosophes de l'époque, il se les pose en partant du principe d'aller voir là où on ne va pas, précisément, c'est-à-dire dans le plus noir de l'âme humaine.
Donc l'enfoui, le caché, le masqué.
Ce qui nous échappe. Vous parliez d'instinct, c'est ça, l'instinct, le vil qui est en nous, le mal qui est en chaque homme, Et il, comme les autres, vont disséquer cette âme humaine à travers leurs œuvres, lui va le faire à travers une œuvre insupportable, il est vrai, mais... avec la précision d'un scientifique. Et même l'exigence dans le raffinement d'un scientifique. Voyons, il va faire une espèce de déclinaison de toutes les perversions possibles des hommes. Et Dieu sait s'il y en a.
Mm-hmm. Alors vous les citez, hein. Alors, sodomie, inceste, meurtre, viol, anthropophagie, prostitution, zoophilie, adultère, coprologie, infanticide, parricide, matricide, sans oublier la calomnie et le sacrilège. Dites donc, si j'ai pas fait fuir tout le monde.
Ouais, exactement. Ah, oui. Mais il y a une chose qu'il faut pas du tout perdre de vue à travers l'œuvre de Sade. Et c'est peut-être en cela que cet entretien apporte une part de vérité, en tout cas d'un éclairage
nouveau.
Oui, nouveau peut-être pas, parce que d'autres l'ont dit avant moi, mais en tout cas nécessaire. C'est qu'il ne faut pas confondre Sade l'homme avec Sade l'écrivain. Il ne faut pas penser que le sadisme, c'est Sade lui-même. Voilà. Il dit à plusieurs reprises dans sa correspondance. Je suis un libertin. C'est d'ailleurs pour acte de libertinage qu'il va être enfermé.
Il dit, c'est ça, 27 je suis ans. Un libertin, pas un criminel, ni un meurtrier.
Donc, toutes les horreurs...
Mais alors pourquoi était-il en prison ?
Toutes ces horreurs qui sont décrites à n'en plus finir dans l'œuvre, dans les 15 tomes de l'œuvre complète de Sade, ce sont des fantasmes. Ce sont des fantasmagories.
Ces fantômes,
ce qu'il appelle les fantômes. Alors, il est enfermé pour libertinage. Soit. Pour un libertinage assez poussé. Oui. Soit. Mais poussé comme était le libertinage de l'époque. Hein.
Oui, mais Noël Châtelet, par exemple, Jeanne, qui est enceinte, elle est molestée, contrainte de piétiner la croix, et il la menace de mort.
Oui, oui, oui.
Il y a l'affaire de Marseille, c'est les fameuses dragées qui contiennent un aphrodisiaque, la cantharide.
Oui, il a failli empoisonner une catin. D'accord. Mais enfin, bon, ces actes de libertinage étaient assez répandus à l'époque, chez les aristocrates de sa trempe, sauf que Sade a pris moins de précautions que les autres et qu'il était moins puissant. Donc, il est enfermé pour acte de libertinage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son œuvre, cette interrogation du mal et cette espèce de complaisance qu'il met à le décrire et à le disséquer, va naître en prison. L'œuvre du Marquis de Sade, cette œuvre insupportable d'une cruauté effrayante qui offense la raison, naît en prison.
Radionne. Radionne.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans l'émission littéraire de votre radio locale. Il y a quelques instants, mélange de pop musique et de chant grégorien, c'était le groupe Enigma et son fameux Sadness. C'était d'ailleurs en 1990. Un titre en harmonie avec le thème de notre rendez-vous, puisque nous parlons du Divin Marquis, en compagnie de notre invité Noël Châtelet, auteur aux éditions Plon de « Entretien avec le Marquis de Sade ». Alors Noël Châtelet, peut-on dire que la prison a été un stimulant intellectuel pour le Marquis de Sade ?
Elle a été à la fois un stimulant, une compensation, une vengeance. Et sans doute aussi une manière de continuer d'exister dans sa tête libertine. Je voudrais insister sur une phrase qu'il écrit à sa femme, Renée Pélagie, quand il est au donjon de Vincennes, et qui explique très 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 bien comment l'œuvre est née. Elle est d'une incroyable luminosité, cette phrase. Il écrit à sa femme: vous avez cru faire merveille en me réduisant à une abstinence atroce sur le péché de chair. Eh bien, vous vous êtes trompé. Vous avez enflammé mon imagination. Et vous m'avez fait créer des fantômes qu'il faudra que je réalise. Fantômes. Freud dirait aujourd'hui fantasme. Hein ? Donc, l'œuvre de Sade est une œuvre fantasmatique. Et plus la prison va durer, et à la fin de sa vie, au moment où je le rencontre, parce que je décide de le rencontrer à Charenton.
Dans la vieillesse, finalement.
Ah oui, je le rencontre un an avant sa mort.
Le 2 décembre 1813.
Jour pour jour, un an avant sa mort. Il va mourir le 2 décembre 1814 à Charenton.
Vous ne le rencontrez pas au mieux de sa forme?
Non, pas du tout.
Il a 73 ans, il est corpulent, il est isolé, il n'a pas le moral, oui. Il est donc à l'hospice de Charenton.
Il est usé.
La Révolution l'a remis en prison et il est finalement prisonnier de l'empereur.
Il aura connu toutes les prisons. Celle de l'Ancien Régime, celle de la République, celle de l'Empereur et celle de l'Empire, absolument. Et quand je vais le voir en prison, justement, il me semble que c'est le bon moment, à la fin de cette vie, où il n'attend plus rien.
Il aurait pu choisir le suicide.
Il aurait pu, il y a songé plusieurs fois. Mais... Non, le fait qu'il soit resté... Moi, je pense que sa passion d'écrire a été la plus forte. Et qu'il a trouvé quand même là quelque chose qui, d'une certaine manière, l'a à la fois réconforté et lui a permis de continuer à vivre. Mais le moment où je vais le voir me permet, au fond, en le regardant dans les yeux, de lui demander... Là, je lui dis, vous n'avez plus rien à perdre. Expliquez-moi le sens d'une œuvre pareille. Qui décourage tout lecteur. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et j'essaie, en trouvant ici et là des réponses et des phrases qui me semblent, comme celles que j'ai citées tout à l'heure, particulièrement éclairantes, de lui faire expliquer l'inexplicable. Parce qu'il reste fondamentalement énigmatique. Je ne prétends pas, à travers ce dialogue fictif, trouver la vérité de Sade, mais en tout cas, je m'en approche singulièrement, et je m'en approche par un procédé de mise en scène qui peut-être ne lui aurait pas déplu non plus, puisque lui-même met en scène sa philosophie à travers ses personnages. Hein. Tous ces personnages résonnent. Hein. Ils ne sont pas seulement... ne sont pas seulement des barbares et des sanglants prédateurs, c'est tous ces héros. Ils sont aussi des libres penseurs et des philosophes. Tous ces personnages, philosophes. Et Sade lui-même, philosophe. Et il philosophe sur le mal, avec l'idée que, contrairement à ce que pense Rousseau, qui croit que l'homme est bon et que c'est la civilisation
qui le corrompt et le rend mauvais.
Oui, l'homme est fondamentalement mauvais, que la nature dans laquelle il est plongé veut le mal, que Dieu, s'il y en a un, est un Dieu du mal, et c'est avec ce pessimisme absolu qu'il va construire un système que j'appelle un jour, dans un autre livre, le système de l'agression, où il va, au fond, aller dans l'ombre qui est en nous, dans le sombre qui est en nous, tenter de mettre un peu de lumière. Et c'est peut-être pour ça que je finis par l'appeler le philosophe des lumières sombres. Je pense qu'il nous rend service. Même à travers la violence de cette œuvre, il n'est pas inutile.
Quand il est provocateur, quand vous citez un des propos de Sade, je ne sais pas d'où il vient, je n'ai pas toujours regardé les sources que vous mentionnez bien, « L'or et le cul, voilà les dieux de ma patrie ». Mais à l'heure actuelle, ça me semble très tendance. Écoutez, franchement,
oui, mais
la,
mais
à la une de l'actualité, l'or et le cul,
oui.
Il y a quelques mois, il
oui,
me
ça
semble
résonne,
que
ça résonne.
Ça fait écho.
Oui, mais ce qui fait encore plus écho, pardon, je vous ai interrompu.
Je vous en prie, Noël Châtelet.
Mais ce qui fait encore plus écho, c'est les témoignages qu'on lit des tortures dans les geôles syriennes aujourd'hui. Il y a eu un témoignage d'une écrivain qui est en exil en ce moment, en France, à Paris, dans un journal l'été dernier, où elle raconte comment ses bourreaux, dans la prison où elle était enfermée, l'ont torturée, elle, l'obligeant à assister à des séances de torture dans les geôles où on ouvrait les portes comme ça systématiquement devant elle. Et je me suis dit, c'est du Sade. Ce qu'elle décrit là, c'est du Sade.
Ce qui s'est passé à Guantanamo ou les excès de l'armée américaine
oui,
en Irak.
L'homme, l'humain, est capable de cette vilainie-là. Elle est capable de la Shoah.
Mais Pol Pot, enfin, on peut chercher
oui,
partout des horreurs, des abominations, justement, dans les cachots, sur les corps.
Sur les corps, dans la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, on a mille exemples de la cruauté de l'homme. Et c'est cette cruauté que Sade veut analyser et veut nous montrer, mais sans phare, mais évidemment avec quelque chose qui nous fait penser, sans tort, à une complaisance dont on se passerait, évidemment, mais qui fait partie de sa quête de vérité.
Donc, ce que vous mettez en valeur, c'est que Sade a été le... Vous parlez de lui comme d'un mineur, me semble-t-il, avec une frontale, qui est descendu justement dans, j'allais dire, les bas-fonds, la fameuse vilainie de l'âme humaine, finalement, et puis... Vous parlez également de lui comme d'un laborantin de l'âme, et c'est aussi une façon de nous intéresser aussi au mal qui est ancré en nous, quand bien même on essaie d'être vertueux.
Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, il ne croit même pas à la vertu. Il pense que la vertu est un faux semblant.
Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il m'a couvert de boue, d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les macros du coin me rincent la dalle. Je m'aperçois qu'en amour, je ne valais pas un sou. Mais grâce à leur petit coup, je vais apprendre tout. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les marins m'appellent l'amiral. Mais je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Dans toutes les gares, j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir, par hasard, j'y ai retrouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Figaro. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je suis cocu, mais content.
Ils sont à moi, les petites femmes de Figaro. Dans toutes les gares, ils guettent les filles de sang. Ils fait tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir par hasard, il a trouvé sa femme. Ils sont à moi, les petites femmes de Figaro. C'est son péché, sa drogue, son cardinal. Il est content, il est content, il est content, il est content, il est cocu, mais content.
Plus proche de vous. Pour vous, Radionne, au cœur de la Bourgogne.
Il est cocu, mais content. Serge Lama et les petites femmes de Pigalle, un titre de 1973. Elle est avec nous pour évoquer le marquis de Sade. Elle est universitaire et écrivain. Noël Châtelet est ce soir devant les micros de Radionne dans Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi à 21h. Alors parlons de Sade qui sera libéré pendant la Révolution française. Il va être libéré parce que les lettres de cachet ont été abolies. Donc le 2 avril 1790, il recouvre sa liberté. Il adhère à la section de la place Vendôme qui deviendra la section des Pics. Et là, pendant quelques temps, finalement, il s'inscrit glorieusement dans le combat des idées de la jeune République française.
Mais il y croit, parce qu'en fait, il a l'idée de la République bien avant la République. Il a été, d'une certaine manière, assez visionnaire de ce point de vue-là. Et au moment de la Bastille, quelques mois après, effectivement, il prête sa plume à la section des Pics où il réfléchit à la question des lois.
Surprenant.
Oui, surprenant pour un homme qui a été enfermé et qui va l'être encore. Mmh. Oui, mais il est bien placé, justement, pour ça. Oui. Et il n'est pas impossible qu'il y ait dans notre Constitution républicaine aujourd'hui des phrases entières de Sade.
Soufflées par Sade.
Donc c'est un aspect de Sade qu'on connaît assez peu, le militant entre guillemets républicain.
Farouche opposant à la peine de mort.
Farouche opposant à la peine de mort, on a du mal à l'imaginer quand on voit le nombre de morts qui jonche son œuvre, mais ça prouve bien qu'il faut bien distinguer entre la personne et les personnages, une fois encore.
Parce qu'il a vu des corps sans tête, des corps suppliciés, guillotinés, je crois que c'est à Picpus.
Absolument. Il a été enfermé à un moment donné, au moment de la terreur, il est enfermé à Picpus avec d'autres monarchiques, parce qu'il reste quand même aux yeux de beaucoup.
Même, un aristocrate.
Oui, même dans la section des Pics, il est un de Sade quand même. Hein, voilà, il reste un aristocrate. Et dans le jardin de Picpus, on déversait toutes les nuits les corps et les têtes des décapités de la journée. Et il a vécu ces mois-là, non seulement dans un dégoût affreux de ce qu'il voyait, mais il a fortifié sa haine contre cette violence insupportable qui est pour lui, vaut pour lui toutes les Bastilles du monde. Et je pense que c'est là aussi qu'il a sans doute pensé à sa propre situation et au fait que la violence n'est jamais le bon moyen pour arriver à faire que l'homme se comporte mieux ou revienne à plus de sagesse. Il croit au flambeau de la philosophie. Il croit à la raison. Et d'ailleurs, son œuvre est fondamentalement athée.
Mm-hmm. Alors justement, parlons un peu de son athéisme.
Son athéisme, forcené.
Il n'est pas très indulgent. Je cite Sade, « L'idée de Dieu est le seul tort que je ne puis pardonner à l'homme. » Donc il est...
Ah, il y va très fort, et jusqu'à la fin, d'ailleurs. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à sa mort. Son testament le prouve.
Et ce qui est surprenant, c'est que c'est son athéisme qui va le rendre suspect aux yeux de Robespierre, et c'est pour cela qu'il retourne en prison.
Oui,
j'allais
parce
dire,
que
le pauvre, on en viendrait presque à avoir un peu pitié.
Non, mais ça prouve à quel point les sociétés et les gouvernements sont versatiles. Hein. Au moment de la Révolution, on remplace Dieu par des statues païennes.
Hein. L'être suprême.
Voilà, l'être suprême, etc. Lui-même écrit des choses magnifiques là-dessus. Hein. Et puis, au moment de la terreur, tout à coup, Robespierre commence à se dire que bon, la religion n'a pas que du mauvais, puisque, au fond, le peuple en a besoin. Il est crédule, ce peuple. Et la violence, le fanatisme de Sade à l'égard de la religion, effectivement, le rend suspect aux yeux des robespierristes et c'est ça qui va le conduire à nouveau en prison. En fait, d'autres choses aussi, des publications hein, qui le poursuivent. Il continue, par exemple, de nier qu'il soit l'auteur de Justine, alors que tout le monde sait qu'il est l'auteur de Justine, donc il se cache hein, pour écrire ses textes. Mais c'est aussi, évidemment... ces textes qui vont l'envoyer à nouveau en prison.
Alors, Noël Châtelet,
oui.
Concernant les femmes et la jouissance,
oui.
Alors, Sade a une position, on peut dire, curieusement moderne pour
oui,
l'époque,
tout à fait.
Puisqu'il est favorable à la liberté sexuelle des femmes, c'est tout juste si, quelque part, il ne veut pas instituer des maisons closes qui seraient contrôlées par l'État.
Tout à fait.
C'est bien cela,
tout à fait,
j'ai bien
oui,
compris.
Des lieux de plaisir.
Des lieux de plaisir.
Où les femmes, comme les hommes, les hommes, d'ailleurs, pourront aller.
Oui. Hein,
on peut très bien imaginer des lieux de plaisir où ce soit les hommes qui soient l'esclave des femmes.
Mais il les provoque quand même. Quand il dit « foutez, vous êtes né pour foutre », c'est pour être foutu que vous a créé la nature.
Oui, c'est du Sade et... il y a beaucoup d'ironie aussi dans tout ça, hein. Faut le prendre au deuxième degré. Mais non, c'est un aspect assez mal connu aussi de Sade. L'aspect révolutionnaire était déjà à signaler, mais effectivement, il est un des tout premiers, et c'est Apollinaire qui le dit. Je crois. D'abord, il est le tout premier à imaginer, effectivement, la liberté sexuelle pour les femmes, le droit à l'avortement, etc. Et les féministes, encore d'aujourd'hui, ont du mal à comprendre ce qu'elles pensent être une contradiction, parce que, justement, elles confondent le héros... tyrannique de Sade, le personnage de Sade, dont il fait victime Justine ou d'autres, avec Sade lui-même. Et dans les textes de Sade, dans Juliette, l'histoire de Juliette, les femmes peuvent aussi être des libertines et elles ont le droit au libertinage comme les hommes. Hein? Ça, c'est un aspect de effectivement, de la pensée de Sade qui nous inquiète un peu, effectivement. Qui nous surprend. Mais c'est à ça que devait servir cet entretien. C'est justement d'aller au-delà des préjugés, des idées toutes faites qu'on a sur ce personnage. Et de voir ce qui, à travers... cette œuvre si violente, si sombre, etc. Et il y avait aussi de précurseurs, parce qu'au fond, il annonce la psychanalyse.
Il a fait tout un catalogue, finalement, des perversions de l'âme humaine que la psychanalyse va
appeler le sadisme.
Étudier. Donc tout cela, on le retrouve, parce que le temps passe, Noël Châtelet.
Il va falloir se quitter, mon Dieu. Non, ça n'aimerait pas que je dise mon Dieu.
Entretien avec le marquis de Sade, donc c'est le dernier ouvrage de Noël Châtelet. Une conversation, un entretien inédit, fictif bien sûr, mais qui permet de montrer que cet homme énigmatique qui fait peur est finalement un homme des Lumières. Il y a un homme des Lumières derrière la sombre légende du marquis de Sade, et c'est notamment une des positions intellectuelles que vous défendez donc dans ce livre paru chez Plomb, Entretien avec le Marquis de Sade, Noël Châtelet. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission littéraire de Radion. Nous sommes presque au terme de notre rendez-vous, mais avant de vous laisser en compagnie du programme musical de Radion, je souhaite partager avec vous quelques informations littéraires, culturelles et éditoriales. Tout d'abord, disponible en kiosque, le dernier numéro de Pays de Bourgogne, avec un remarquable dossier consacré au labyrinthe et à son symbolisme. À noter également un article consacré à Georges Lemoine. Georges Lemoine est né à Tonnerre en 1841. Il est mort il y a maintenant 90 ans, mais il est mort à Paris. Alors Georges Lemoine a été polytechnicien et deviendra un des spécialistes de l'hydraulique et des crues de la Seine. Et il a mené notamment une campagne pour sauver le vieil hôpital de Tonnerre sur lequel la municipalité voulait édifier un marché. Retrouvez donc plus d'informations sur Georges Lemoine et sur un très grand nombre de sujets typiquement bourguignons dans le numéro 230 de Pays de Bourgogne. Un autre magazine que j'aime particulièrement, c'est un magazine associatif, c'est Vent du Morvan. Un beau magazine avec un grand dossier sur la forêt morvandelle, mais aussi les rubriques habituelles, la langue, l'histoire, l'artisanat, le patrimoine, métier d'art, sans oublier une rubrique littérature qui est consacrée dans le numéro d'hiver 2011-2012 à l'écrivain Gérard Oberlé, qui habite dans la Nièvre, dans le Morvan, dans son manoir de Pron, où il s'adonne à l'écriture et à la bibliophilie. Vous retrouverez également dans Vent du Morvan une rubrique à laquelle je suis particulièrement sensible, c'est la rubrique Morvan Livre, qui fait toujours le point sur les ouvrages qui ont un lien étroit avec le Morvan. En librairie cette fois-ci, alors un coup de cœur cette semaine. En effet, je vous recommande chaudement un livre intitulé « Personnages de Lyon », paru aux éditions du Palais d'Ortie, dans lequel sont répertoriés 400 personnages nés dans Lyon ou ayant travaillé ou résidé dans notre département. C'est un beau travail de recherche et d'érudition signé Josiane Maxel, paru donc aux éditions du Palais d'Ortie, « Personnages de Lyon ». Des nouveautés sur les rayonnages des librairies et notamment deux nouveautés aux éditions de Bourgogne. D'abord, « Nouvelles à chuchoter au crépuscule » signé Lucette Desvignes. C'est un recueil de 6 nouvelles à découvrir donc aux éditions de Bourgogne. Et puis un roman, cette fois-ci, toujours aux éditions de Bourgogne, intitulé « Dieu ou diable » avec un sous-titre alléchant « Le terrifiant secret du boulanger de Flavigny ». Et c'est un roman signé Lydie Alamazzani. Je mentionne aussi, cette fois-ci c'est le 2 février prochain, toujours dans les nouveautés en librairie, le prochain livre de Bernard Lecomte. Bernard Lecomte qui est le spécialiste de la papauté et qui donc va faire paraître aux éditions Perrin « Les derniers secrets du Vatican ». Alors Bernard Lecomte y traite d'un grand nombre de dossiers majeurs de l'histoire moderne de l'Église, l'infaillibilité du pape, les affaires de pédophilie. Le tombeau de Saint-Pierre, est-ce que c'est vraiment Saint-Pierre qui est dans le tombeau? Il revient sur le choc Pie XII de Gaulle ou sur les rapports entre l'Église et la franc-maçonnerie. C'est donc très prochainement en librairie, le 2 février précisément, avec « Les derniers secrets du Vatican » aux éditions Perrin et c'est signé Bernard Lecomte. Le compte à rebours est lancé pour le Salon du Livre de Valence qui se tiendra le 5 février prochain. Mais d'abord, je signale le samedi 4 février à la salle des fêtes de Valence à 17h, le spectacle « C'est moi Gadine », spectacle de Barbara Moreau accompagnée de l'accordéoniste Frédéric Gâteau. L'entrée est libre, le spectacle dure 1 heure et Barbara Moreau est l'invitée d'honneur du Salon du Livre de Valence. Et le salon, lui, se tient le lendemain, le dimanche 5 février, toujours à la salle des fêtes de Valence, de 9h à 18h. Retrouvez en podcast nos émissions sur le site de Radion. Les 20 derniers numéros de Wagon Livre sont disponibles à l'écoute et en téléchargement, n'est-ce pas merveilleux? Retour de Wagon Livre sur les ondes, mercredi prochain à 21h. Je vous proposerai un entretien enregistré le mois dernier à Dijon avec Didier Decoing, membre de l'Académie Goncourt. Nous parlerons de son dernier roman, Une Anglaise à bicyclette, paru chez Stock, l'histoire d'une petite fille Sioux, orpheline suite au massacre de ses parents par la cavalerie américaine en 1890 et qui va être adoptée par un généreux photographe britannique. C'est vraiment le romanesque à l'état pur, surtout si vous croyez aux fées. Eh bien, ce sera mercredi prochain, 1er février, en compagnie donc du prix Goncourt 1977, scénariste romancier Didier Decoing sera devant notre micro. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, et dans l'attente du plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, je vous remercie de votre fidélité. Au revoir. Thank you.